Manosque, vendredi 28 février, s'est déroulé un événement attendu depuis près d'une décennie, l'officielle ouverture des travaux de rénovation de la maison de Jean Giono au Paraïs. Ce projet prévu pour se terminer dans un an intègre également un nouvel aménagement d'accueil des visiteurs dans le haut jardin, la maison de site et la restauration complète des jardins. Une collaboration de la DRAC PACA, de la Région Sud, de DLV Aglo, de la mairie de Manosque, de la Fondation du Patrimoine et la Mission Berne, d'AXA France, de l'Occitanie et de la FDJ. Nous allons entendre Claire Zara, directrice du développement culturel pour DLV Aglo, Sandra Faure, vice-présidente de DLV Aglo, déléguée au développement culturel, Elisa Cuzon pour l'atelier Régis Roudy, l'architecte d'Aix-en-Provence, responsable du projet de site, Christian Morzewski, président de l'association des Amis de Jean Giono, puis Camille Galtier, maire de Manosque et président de DLV Aglo, le préfet des Alpes de Haute-Provence, Marc Chapuis, et enfin Sylvie Giono, qui évoque non pas simplement la maison de son père, mais leur foyer avec sa sœur Aline et leur mère. Les livres, certes, mais Giono se passionnait tout autant pour la peinture, la musique, dont le baroque.
C'est un projet souvent qu'on qualifie d'un projet 3 en 1, puisque le projet initial, c'est quand même la restauration de la maison de Jean Giono. Mais pour apporter cette restauration vraiment patrimoniale, architecturale, on lui adosse deux autres projets, des aménagements paysagers qui sont très importants, parce que déjà assez volumineux dans les espaces qui sont dédiés au projet. Surtout parce que Giono avait un rapport à la nature quand même très très fin et très important. Et le troisième projet qui vient s'imbriquer, c'est là où on se trouve, la création d'une maison de site qui nous permet de sortir en fait de la maison patrimonial tous les usages nécessaires à un site culturel, un site touristique, un site qui va recevoir des publics scolaires, etc. Donc tout ce qui est de l'ordre des actions de médiation, d'information, d'accueil, des commodités, etc. On déporte tout ça sur l'entrée de site pour vraiment libérer la maison et la laisser dans son écrin parfaitement original avec sa patine ancienne. Enfin vraiment, si on réussit le projet, ça veut dire que demain dans la maison de Giono, on ne voit aucune différence entre l'avant et l'après. C'est presque ça l'idée.
Parce qu'il était nécessaire de faire quelques aménagements dans la maison originale?
Oui, alors elle a des dégradations un petit peu de partout, en toiture, en façade, en menuiserie, etc. Rien de gravissime sur la structure, mais il faut savoir que dans la maison de Jean Giono, on conserve toute sa bibliothèque, c'est plus de 8000 livres, tous ses objets d'art, ses tableaux, ses correspondances, ses archives, et que pour conserver ça d'un point de vue patrimonial, il faut vraiment que les conditions soient exceptionnel, exemplaire sur le climat, sur la sécurité des collections, sur donc les taux d'hygrométrie, les insectes xylophages, enfin toutes ces questions qui peuvent venir perturber la conservation des collections. À l'exception du terrain sur lequel on se trouve et sur lequel on vient construire la maison de site, et justement parce que c'est la seule parcelle qui n'est pas protégée au titre des monuments historiques, tout le reste des jardins appartenait à Jean Giono. Il en a fait l'acquisition à diverses époques de sa vie, jusqu'à très tardivement, puisqu'en 69, il achète un pavillon, un très beau jardin paysager et un espace qui se trouve ici à l'arrière.
Cet espace dépendra de la DLVA.
Oui, tout à fait. Donc, c'est propriété de la ville de Manosque, hein, qui en fait l'acquisition en 2016 et qui le transfère au titre de la compétence culturelle à l'agglomération dans la foulée. Et ça va faire 10 ans bientôt qu'on travaille sur ce projet qui a vu plein de réalisations. C'est un projet vraiment important, donc faut pas se tromper. Au début, la maison de site n'existait pas. C'est en avançant dans le projet qu'on l'a trouvé indispensable pour vraiment laisser le Paraïs dans son histoire.
Pour ce projet, évidemment, vous êtes adressé à Sylvie Giono. Qu'en a-t-elle pensé? Quel a été la discussion?
La discussion avec Sylvie Giono est intéressante dans les premières années du projet, puisqu'elle faisait partie du comité de pilotage du projet. Au début, tout se mettait dans la maison de Giono. Tout était au Paraïs, l'accueil des visiteurs, les vestiaires, les commodités. Et alors que le projet était quasiment bouclé, dernière réunion de ce comité de pilotage pour le valider, et là Sylvie nous dit en fait ça va pas. Alors ça a été un peu dur au départ à accepter, mais en fait on a compris qu'on était tous d'accord avec elle, ce projet n'allait pas dans le bon sens. On l'a arrêté, on a pris de la hauteur, on a réfléchi, on s'est dit finalement on a des espaces paysagers immenses, pourquoi ne pas déporter ces usages et envisager le projet dans sa globalité et pas juste avoir le regard focalisé sur la maison. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a travaillé un nouveau projet avec la construction de cette maison de site, le long de la montée des vraies richesses, qui permet en plus d'avoir un accès de la route, pour les riverains, pour le voisinage, etc., d'entrer tout de suite dans la parcelle. Et petit à petit, finalement, de progresser vers le Paraïs. Et même dans les médiations, dans la programmation culturelle qu'on prévoira, il y aura vraiment cette idée d'aller tranquillement vers la maison de Giono. Ben oui, parce qu'il faut régler des questions d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, il faut installer des sanitaires, il faut installer un accueil, une information, une billetterie, enfin c'est nécessaire tout ça. Et ça ne va pas à sa place dans la maison.
Circulations, ça convient.
Circulations, etc. On se retrouvait avec des espaces qui devenaient des couloirs de transition d'une partie de la maison à une autre. Et finalement, ça nous convient. Vous n'êtes pas.
Sandra Faure, vous êtes vice-présidente à la culture pour DLV Agglo, un projet formidable.
Alors, un projet exceptionnel qu'on attend, depuis le début de notre mandat. Et enfin, on y est, enfin, on va poser la première pierre sous un ciel plutôt clément et des températures bien agréables. Donc oui, ça va être une belle matinée.
Qu'est-ce qui est prévu ce matin ?
Alors ce matin, nous allons symboliquement, grâce à un petit maillet, taper sur un clou en bois, voilà, à défaut d'une première pierre.
Un premier clou donc.
Alors un premier clou, certes, et pourquoi en bois ? Parce que la maison de site, donc qui va être construite ici même sur les jardins du haut, comme on appelle ça, sera en bois. Et du coup, pour nous, c'était symbolique de garder cet esprit qui correspond à la maison, donc sur l'écologie, sur le respect de la nature, et voilà.
Vous qui êtes responsable de la culture, à quel point Jean Genot est important pour la ville
oui,
et l'agglomération ?
Exactement, Jean Genot, je pense que c'est la personnalité qui va refléter Manosque au sein de notre beau pays et puis du monde entier aussi, je pense. Hein, c'est vraiment la figure emblématique de la littérature française et une grande fierté pour nous qu'il soit sur notre territoire. On a maintenu la gestion du Paraïs par la DLVA. Pour justement pouvoir gérer aussi le rayonnement et tout ce qui a rapport au livre, à la lecture publique que nous gardons avec les médiathèques. Voilà, tout ça est un lien et qui est précieux et on veut garder cette cohésion.
Et vous espérez une ouverture pour 2026 ?
Alors normalement, oui, c'est ce qui est espéré, puisque la maison, donc, comme je viens de vous le dire, elle sera en bois, donc la construction devrait être rapide. Après, derrière, on aura la restauration qui va se faire de la maison. Donc tout ça devrait prendre une bonne année, on va dire. Mais voilà, on est début 2025, on espère que début 2026, tout sera fini.
Elisa Cuson et je travaille pour l'atelier Régis Roudy l'architecte qui est mandataire sur le projet.
Quel a été le point de départ ?
Le point de départ, c'était une demande, bon c'est la demande du concours, c'était. Nous on a travaillé principalement sur la maison de site. Il y a un architecte du patrimoine qui a travaillé sur la restauration de la maison qui s'appelle Sébastien Corr, qui n'est pas là aujourd'hui mais qu'on va représenter. Nous on a travaillé sur la maison de site et en gros c'est de faire un petit bâtiment assez simple mais qui accueille tous les éléments programmatiques qui servent aux visiteurs pour ensuite visiter la maison. Donc c'est une billetterie, une petite librairie, un espace polyvalent où il peut y avoir des événements, des lectures, etc. Donc on nous a demandé d'avoir un projet qui est plutôt contre la rue, sur une parcelle qui est non inscrite au patrimoine. Et voilà, c'était un petit peu les demandes initiales.
Dans le respect de ce qu'on pourrait peut-être qualifier d'esprit naturel qu'aimait Giono.
Oui, alors ça, bon, c'était à la fois une demande du projet et aussi nous, c'est une conviction qu'on a à l'agence de vraiment travailler avec des matériaux à la fois qui font référence à un territoire, à un patrimoine local, à un artisanat, mais aussi des matériaux qui sont souvent bio ou géosourcés pour des enjeux écologiques. Quoi. Donc là, c'est le cas. En fait, on a un bâtiment qui a à la fois des murs qui sont sur rue, qui sont en béton dans lequel on inclut des pierres locales, de la Durance. Et ces murs-là, ils accueillent une structure en bois légère qui est du bois certifié Bois des Alpes, donc c'est une sorte de label, une certification qui permet de contrôler la provenance des bois.
Et hormis cette maison de site, vous occupez des aménagements extérieurs ?
Alors il y a un paysagiste, une paysagiste qui travaille sur ce projet-là, qui n'est pas là non plus, c'est l'atelier Sarah Tandam. Et donc il s'occupe à la fois de l'aménagement des jardins du haut et du bas. Et donc là, de nouveau, il y a vraiment une réflexion sur les matériaux, des galets de la Durance, de la terre cuite, etc. Et c'est un aménagement qui est à la fois discret, parce qu'on ne veut pas du tout dénaturer le lieu, qui est magnifique, et en même temps, ça permet d'aménager pour que tout public puisse venir et visiter.
La surface de cette maison ?
La maison de site, on a à peu près 150 mètres carrés.
Je suis Christian Morzewski et donc j'ai succédé à Jacques Ménic à la présidence des amis de Jean Giono depuis 2 ans maintenant.
Alors d'ailleurs c'est peut-être l'occasion d'avoir une pensée pour Jacques Ménic.
Oui, dont j'étais très proche et donc dont la disparition nous a tous plongés dans le désarroi parce que ça a été tellement brutal. La chance immense que nous avons eue avec la présidence de Jacques Ménic, c'est qu'il s'agissait vraiment, je dirais, d'un homme venu du spectacle, du monde du spectacle. Et cela, ça a tout changé dans le cadre de notre association, parce qu'effectivement, ce qui était peut-être un peu confiné à la sphère littéraire, on va dire, avec lui, a pris un grand coup d'oxygène, les fenêtres se sont ouvertes, Et puis avec lui, eh bien, j'ai entrepris la professionnalisation, dirons-nous, de l'association, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, une association de cette importance ne peut pas fonctionner sur le mode qui était gentiment amateuriste, on va dire, hein, des années de fondation, c'est-à-dire des années 70 et 80. Et puis Jacques, avec toutes les qualités qu'il avait, n'avait pas vraiment préparé sa succession. Et donc, on s'est retrouvés à devoir gérer une situation un peu complexe. Mais on la gère de façon, je dirais, beaucoup plus collégiale, avec dans l'association plusieurs vice-présidents maintenant qui sont délégués à l'une. Je vais commencer par ces dames. Vous la connaissez, c'est Jacqueline Hurch au patrimoine, aux archives, etc. L'autre aux relations avec les collectivités, l'autre à la préparation des rencontres et ainsi de suite.
Mais presque.
Alors, les amis de Jean Genot, tout d'abord, vous êtes combien de personnes ?
Alors, nous sommes à travers le monde, grosso modo 800 adhérents. Je dis bien à travers le monde, hein, oui. Parce qu'effectivement, on a des adhérents qui sont aussi bien au Japon, aux États-Unis, qu'en Russie ou partout ailleurs. Et ça représente quand même environ, on va dire, 200 d'entre eux, à peu près. Donc, vous voyez, presque un quart. Ce qui en dit long sur la notoriété mondiale de Giono. D'ailleurs, actuellement, c'est dans le domaine des travaux de recherche universitaire. Ce sont les travaux, les thèses étrangères qui ont pris le pas en termes de nombre sur les thèses françaises.
Quelle est la place de Giono dans la littérature française ?
Je dirais que la mariée n'est jamais suffisamment belle et donc on aimerait qu'effectivement il occupe une place encore plus prééminente. Mais pour rester dans le domaine de la recherche universitaire, il est maintenant dans son secteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le premier 20e siècle, l'écrivain qui suscite le plus de travaux de recherche, de toute nature, mémoire, de master, comme on dit maintenant, thèse de doctorat, publication, critique. Donc ça, c'est un signe, finalement. Il a dépassé Camus depuis quelques années, en termes de dépôt de sujets de thèse, et il continue à alimenter des publications extrêmement nombreuses. Ici, aux amis Jean Giono, il ne se passe pas de semaine, dirais-je, sans qu'on soit informé d'un nouveau projet de recherche, de doctorat en particulier, avec une orientation un peu différente maintenant par rapport aux thèses, je ne dirais pas de mon époque, mais du XXe siècle, disons les choses comme cela, avec une orientation plus, comment dirais-je, éco-poétique et environnementale. Mais ça reflète bien l'intérêt des jeunes chercheurs, effectivement, pour la cause environnementale. Et puis une orientation aussi politique, au meilleur sens du mot, autour du pacifisme, de Giono, etc. Et ça, c'est très encourageant. Ce qui me surprend toujours, parce qu'on parlait de Jacques tout à l'heure, et c'est lui qui était, bien sûr, en première ligne pour recenser toutes ces activités en matière d'adaptation, de traduction de l'œuvre de Giono, et là c'est aussi bien Sylvie Giono que moi-même qui sommes sollicités, il y a, je dirais, chaque mois, 3 ou 4 projets d'adaptation théâtrale. Son œuvre continue à alimenter, je crois, et pas seulement dans la région. Hein. Moi, je viens du Grand Nord, hein, de l'Université de Lille. Dans ma région aussi, c'est l'écrivain qui, je crois, on va dire quelque chose d'un peu trivial, a le mieux vieilli. Et son œuvre vraiment est au confluent d'un certain nombre de préoccupations contemporaines. On en parlait tout à l'heure, éco-environnementales, politiques aussi. Et puis, bien évidemment, n'oublions surtout pas la qualité de l'écriture. C'est un styliste vraiment hors pair. Hein.
Pour ce qui concerne votre association, vous organisez évidemment des événements au long de l'année. Oui. Quel est le prochain événement à venir ?
Alors le prochain grand événement, ce sont les Rencontres 2025, donc un festival autour de l'œuvre de Giono qui se tiendront ici à Manosque principalement, mais aussi à Gréoux, à Bannon et au Comtadour, avec un retour au Comtadour, du 30 juillet au 3 août prochain.
Camille Galtier, un projet tant attendu ?
Oui, c'est un projet de longue haleine, comme on dit. Projet complexe, parce que c'est un bâtiment classé. Projet complexe parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mobilier, que ce soit littéraire ou autre, avec de la valeur patrimoniale importante. Donc il fallait à la fois le protéger, le préserver, pouvoir le stocker ailleurs. Et donc, de fait, on a 3-4 mois de retard sur ce qui était initialement prévu. Mais la rénovation complète du Paraïs, de la maison historique de Jean Giono commence. la maison de site, elle aussi, qui sera une extension dans les matériaux les plus nobles de ce que la Provence offre, à savoir les galets de la Durance et le bois de nos belles forêts, va aussi commencer et pourra être livrée dans un an jour pour jour. Et évidemment, ça nous permettra d'avoir une expansion culturelle, une médiation culturelle, littéraire sur ces deux bâtiments, avec bien évidemment aussi les jardins qui sont assez exceptionnels du Paraïs. Et donc évidemment, et la ville de Manosque, et l'agglomération, et le département des Alpes-de-Haute-Provence sont heureux, parce qu'on va offrir un joyau littéraire pour la jeunesse, mais aussi en termes d'attractivité territoriale et pour le tourisme.
Vous l'avez évoqué dans votre discours, Manosque s'investit énormément pour la culture. Vous avez parlé éventuellement d'une deuxième médiathèque.
La médiathèque s'est actée. Alors évidemment, elle va mettre 30 mois à être livrée, puisqu'on est sur un projet de rénovation urbaine dans le cadre du quartier des Plantiers. Mais elle est actée. Il y aura une deuxième médiathèque sur la ville de Manosque. On a aujourd'hui trois librairies dans la ville, une bibliothèque pour tous, je le dis, de médiathèque. On a quand même un potentiel littéraire et une valeur patrimoniale pour une ville de 25 000 habitants et exceptionnel, d'une richesse exceptionnelle, donc il faut le préserver, le valoriser, et c'est pour ça que la ville de Manosque va candidater cette année pour le label UNESCO de patrimoine immatériel sur le volet littérature, parce que je crois que la ville de Manosque peut l'obtenir et faire rayonner la France à l'international, et c'est là tout le sens du patrimoine UNESCO.
Vous avez cité le Festival des Correspondances, le Paris évidemment.
On a le Festival des Correspondances qui chaque année nous émerveille. On a eu cette année Kamel Daoud quand même qui aujourd'hui, on le voit, prix Goncourt, qui est un auteur, je crois, qui mérite d'être encore plus connu dans les prochains mois. On a l'association Éclat de Lire qui rayonne sur l'ensemble des Alpes-de-Haute-Provence et qui nous permet d'avoir un accès à la culture et à la littérature pour la jeunesse et pour les plus petits, même dans les quartiers les plus défavorisés. Donc bien évidemment, ce sont des piliers de l'offre culturelle manosquine.
Camille Gatier, enfin, pour en revenir au Paris lui-même, pour ce qui concerne les financements, il a été facile de réunir les fonds ?
C'est jamais facile, parce qu'il y a de moins en moins d'argent public, hein, qu'on le veuille ou non, mais néanmoins, la mosaïque des partenaires, je dis mosaïque parce qu'on a les partenaires institutionnels classiques, hein, la Direction régionale des affaires culturelles, on a les fonds européens, on a la région, on a l'agglomération et la ville de Manosque sur l'acquisition. À cela s'est ajouté aussi le volet privé avec l'Occitane, avec AXA, avec la Fondation du patrimoine et la Mission Berne. Et donc, de fait, ça nous permet d'avoir une pluralité de financeurs et de faire passer un projet, parce que 3 millions d'euros, c'est pas une broutille, c'est pas une paille. Mais néanmoins, quand on est sur des objets culturels comme celui-ci, ça coûte cher, parce qu'on est sur du patrimoine classé. Et la valorisation de cela, c'est évidemment que ça coûte un peu plus cher que l'habituel bâtiment classique.
Aujourd'hui, nous lançons les travaux de la rénovation du Paraïs, la maison de Jean Giono, dans laquelle il a composé l'essentiel de son œuvre. Et effectivement, ça se passe dans un lieu enchanteur, sous un merveilleux ciel d'hiver, avec des gens passionnants et passionnés de l'œuvre de Jean Giono. Donc c'est un beau moment, et c'est un moment important parce que d'ici un an, les Manosquins, mais tous les amoureux de Jean Giono, vont pouvoir disposer d'un lieu remis dans son état d'origine avec un parcours de visite qui va permettre pour ceux qui ne le connaissent pas de découvrir l'immense écrivain qu'était Jean Giono, et puis pour ceux qui l'aiment et qui le lisent de pouvoir ressentir un peu comme Sylvie Giono nous l'a fait ressentir aujourd'hui ce qu'a été cette maison dans l'œuvre de l'écrivain.
On pourrait dire que la littérature fait partie de l'identité française.
Absolument, et que la culture, la protection du patrimoine fait partie de l'identité française et aussi de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, cette dimension immatérielle liée à des personnages, à des paysages, à des œuvres, ça fait partie aussi de l'ancrage et du sentiment d'appartenance à un territoire. Et donc, on a la chance dans les Alpes de Haute-Provence d'avoir avec Jean Giono, avec d'autres écrivains aussi, je pourrais citer Alexandra David-Nel à Digne, un élément immatériel qui fait beaucoup pour la fierté de vivre dans notre département.
Sylvie Genoux, c'est un projet finalement qui correspond à vos attentes.
Ah ben bien sûr, aujourd'hui je crois que c'est la première manifestation comme ça que j'ai le plaisir, non pas de présider, mais j'assiste avec un grand plaisir à cette première pierre qui sera d'ailleurs du bois. Et oui, je ne peux être qu'heureuse. En plus de ça, le temps y est pour beaucoup. Écoutez, je trouve ça pas formidable, je l'attends depuis 8 ans.
Cet aménagement permet de ne pas dénaturer la maison.
Absolument, oui, oui. Oui, c'est très bien qu'il y ait un bâtiment à part, et qu'on prévienne les gens, et qu'ils puissent regarder aussi les livres de mon père, qu'on puisse aller leur conseiller s'ils ont des questions à poser. Et ensuite, la visite de cette maison, ce que je veux, c'est qu'on retrouve cette maison avec la chaleur qu'elle avait. Bien sûr, les gens qui viennent visiter, ils veulent une maison d'auteur. C'est l'auteur qu'ils veulent retrouver. Pour moi, c'est la maison familiale, en plus. Bien sûr, et toute la chaleur que dégageait cette maison. Bien sûr, ça a été le creuset de l'œuvre de mon père, mais c'était en même temps, il avait besoin de cette famille, de ce cocon familial pour créer ses œuvres. Alors, j'espère qu'on va arriver à restituer, grâce à la fois à la restauration, tout le mobilier que je vais y remettre, puisque c'est ça aussi, c'est que cette maison est vide sans moi.
Oui. Ça ne vous fait pas un gros effet d'ailleurs de l'avoir vide en ce moment ?
Si, ça me... C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Ça n'est pas ma maison là que je vois. C'est une espèce
c'est une
de cage vide.
C'est une coquille en attendant.
Cette maison, c'était en plus de ça une maison invendable à l'heure actuelle, puisque c'était une passoire énergétique. Il faisait froid l'hiver, il faisait chaud l'été, mais heureusement, nous avions les bibliothèques de mon père qui doublaient les murs et qui faisaient une protection contre tout ça. Voilà, mais c'était une maison chaleureuse.
Votre père était un grand lecteur.
Ah, même ça va de pair avec la création littéraire. Oui. Mais très très grand lecteur. La bibliothèque que vous aurez l'occasion de revoir dans cette maison, dites-vous qu'elle n'est que pratiquement que le tiers de ce que mon père a possédé. C'était un homme à la fois généreux aussi, c'est-à-dire que les gens qui venaient le rencontrer, ils parlaient littérature et hop, il y avait les livres qui s'envolaient, qui partaient à droite et à gauche chez les personnes. Donc cette bibliothèque a été plutôt volante, vous voyez. Il n'a gardé que l'essentiel, mais c'était les livres qu'il préférait, c'est les livres qu'il consultait, qu'il compulsait sans arrêt.
Voilà. Et vous-même, quel est votre livre préféré s'il y en a un ?
C'est difficile, ça dépend des moments de ma vie. Il y a des moments où j'ai besoin de relire, par exemple, Jean le Bleu, ou bien j'ai besoin de relire Le Hussard sur le Toit. Ça dépend de ce que mon père, j'attends que mon père m'apporte. Grand livre pour moi, c'est quand même Un roi sans divertissement.
Si on parle de Jean Giono pour la littérature, mais la musique...
Ah, mais la musique était très importante, autant que la peinture, la littérature, absolument. Bien sûr, tout ce qui était artistique. Mais c'était très compartimenté aussi. C'était la musique baroque, surtout.
Ah oui,
ça allait de Monteverdi jusqu'à, bien sûr, Mozart, Beethoven. Je vais aller jusqu'à Beethoven, qui était déjà plus tout à fait plutôt classique. Voilà, mais ça allait jusque-là. Mais encore, ça a été une période... Mais Bach, bien sûr, Vivaldi, Cimarosa, tous les musiciens italiens, on était bercés par la musique. Mais c'était une musique qui nous entourait, on n'écoutait pas religieusement. La vie continuait de se dérouler dans la maison. Voilà. Voilà.
La peinture, alors il y a les fresques de Lucien Jacques aussi,
bien
chez
sûr,
vous.
Ben, Lucien, c'était un élément de la famille, c'était notre père... d'adoption à ma sœur et moi, il avait autant d'importance que notre vrai père. Alors nous avions un père écrivain et puis on avait un père d'adoption qui était peintre, bien sûr. Peintre, poète aussi, c'était multi...
Il y a pire comme parentèle.
Ah oui, 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 on était très bien.
Comment s'était-il connu, Lucien Jacques et votre père ?
Tout simplement parce que, tout en étant employé de banque, mon père écrivait des petits textes qu'il envoyait à une revue littéraire, ah merci, tu es gentil, une revue littéraire qui s'appelait La Criée, revue marseillaise. Et Lucien Jacques a lu ces textes-là, lui contribuait à cette revue aussi par ses dessins. Et il a écrit à mon père dans les années 28, 29, et en disant qu'il aimait beaucoup ce que mon père écrivait, qu'il aimerait bien le rencontrer. Et mon père lui a répondu en disant qu'il avait beaucoup de plaisir, il aurait beaucoup de plaisir à le rencontrer, effectivement, mais qu'il ne pouvait pas se déplacer parce qu'il travaillait. à la banque. À l'époque, il n'y avait pas les congés fin de semaine, c'était que le dimanche. Et puis, il y avait la vie familiale. Alors, et il invitait Lucien Jacques à venir le rencontrer à Manosque, si c'était possible. Et Lucien est arrivé et il n'en est jamais parti de la maison. Voilà, il a fait partie tout de suite intégrante de la famille. Voilà.
Des très belles fresques dans cette maison.
Ah oui, très belles. Oui.
On peut les décrire ?
C'est une fresque qui est la plus grande, oui. Date de 1936. Et elle représente à la fois la famille et les œuvres que mon père avait déjà écrites à cette époque-là. Par exemple, on voit ma sœur en train de mettre un collier à un cerf. C'est le personnage principal de « Que ma joie demeure ». Dans un coin, il y a Lucien Jacques qui s'est représenté en joueur de flûte de pan. C'est Regain et le personnage de pan, du lieu pan. Il y a... derrière, il y a les bœufs de Panturbe, c'est Regain. Il y a la confection du pain, c'est les vraies richesses. Il y a le Mont d'Or, c'est Colline, avec le Matusque des Plateaux. Voilà, c'était les premières œuvres que mon père avait écrites avant 36.
Alors on verra tout ça, j'espère, dans un an à l'identique.
Hein. J'espère bien.
Vous surveillerez, je vous en
Je surveillerai. Tant que je suis là, je surveille.